Le soir, avant de mettre les enfants dans leur lit, quand je fais ça, je lis souvent une petite histoire, un petit récit, un livre ou une partie d'un livre. Et ils m'écoutent attentivement. Souvent, ce qui se passe en réalité, c'est que moi, je m'occupe des deux filles. Et puis Cindy s'occupe de M. William. Et donc, on est souvent au lit avec les deux filles en train de lire et de prier ensemble avant qu'elles se couchent pour la soirée, pour la nuit. Et donc, nous faisons notre petite prière. Et puis, j'éteins la lumière en disant bonne nuit. Et souvent, ou de temps en temps, l'une ou les deux, chaque fille dans notre maison, elle a sa propre chambre. Donc, je vais commencer peut-être avec Charité. Je vais lui dire bonne nuit. Et souvent, c'est en ce moment-là, quand la lumière est éteinte, quand je suis en train de fermer la porte, que j'entends une petite question. « Papa, qu'est-ce qui se passe ici ?» ou « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et il y a une petite question qui vient de la nuit comme ça. Et puis, je m'efforce de répondre. Et puis, je ferme un petit peu plus. « Mais papa, il n'y a pas autre chose que tu peux... Hein? » Elle va commencer à me raconter une histoire ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as dit l'autre jour, des petites choses comme ça. Et puis je vais chez Faith avec sa chambre, on s'embrasse et puis j'éteins la lumière et c'est à peu près la même chose des fois. Elle dit papa, bonne nuit, da da da, elle chante une petite chanson, quelque chose comme ça. Mais quand j'entends ces questions, quand j'entends ces petites voix avec la lumière éteinte. Et tout. C'est pas, à mon avis, vraiment juste les réponses que mes filles cherchent. C'est de maintenir un peu plus le contact avec le Père. Et c'est pour moi très amusant. Ça me touche de pouvoir avoir ce sentiment envers moi. Et moi, j'ai le même sentiment. Des fois, je ferme la porte en disant, j'aurais pu passer plus de temps avec elle aujourd'hui. J'aurais bien aimé faire ça avec elle aujourd'hui. J'aurais bien aimé faire un peu plus de sport ou de jouer avec. Donc, moi aussi, j'ai le même sentiment. Et donc, en tant que parent, est-ce qu'on se demande des fois si on peut donner quelque chose à nos enfants pour qu'ils se calment, pour qu'ils passent une bonne nuit, pour que ils passent la nuit tout en confort, pas avec des craintes ou des soucis, et puis pour qu'ils se réveillent le lendemain avec une nuit bien passée. Il y a de bons exemples de ce qu'on essaye de leur donner. Vous vous souvenez d'un petit verre de lait de temps en temps, quand on a du mal à s'endormir, maman va apporter un verre de lait. Peut-être on va mettre un doudou, on va rappeler à l'enfant que « Ah oui, prends ton doudou, embrasse-le, tiens le doudou juste à tes côtés jusqu'à matin. » Et puis peut-être on va même chanter une petite berceuse aussi avant de dire « Bonne nuit ». Donc on a chacun et chaque famille fait différemment. Il y a certaines choses que nous apprenons quand nous sommes très jeunes. Et puis on va essayer de reproduire ce que maman nous a fait ou ce que papa nous a fait. Et puis ça fait une tradition familiale dans une sorte. Ça fait un souvenir pour nous en tant que parents. Et aussi c'est quelque chose que nous passons à nos enfants. Mais aujourd'hui, je voulais juste souligner pour pour titre d'introduction, ce sentiment, cet attachement que nous avons quand nous nous disons bonne nuit entre mes parents et les enfants. Et avec ça en tête, reportons-nous maintenant à Luc 24, Luc, le 24e chapitre de Luc et le verset 45. Quand je lis ce passage et quand je lis le début du livre des Actes, qui en fait, ce sont deux livres qui se joignent comme ça ensemble, ils sont tous les deux écrits par Luc aussi. Et donc, quand on termine Luc, on peut quand même aller directement aux Actes pour continuer l'histoire. Mais on va commencer aujourd'hui avec Luc 24. Avec ce sentiment d'attachement en tête. Ce que nous ressentons ici, c'est le même attachement, mais c'est pas entre parents et enfants. C'est un autre attachement. Luc 24, verset 45. « Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » Donc, il y avait une période d'instruction après la résurrection de Jésus-Christ. Verset 46. « Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » Je vais continuer dans ma Bible à côté. Et puis, verset 47, « Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Et puis, verset 48, « Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Donc, il est en train de dire au revoir, il est en train de s'en aller, mais il dit, mais vous, restez, attends, patientez un petit moment, ok, avant d'accomplir tout ce que nous sommes en train de faire, de préparer, parce que si vous imaginez de passer plusieurs jours dans une formation avec Jésus-Christ direct, vous êtes pas mal prêt à commencer à travailler, à aller servir, à aller sur le champ pour commencer à faire ce qu'il nous a demandé de faire. Et puis, c'est à mon avis, cette impression-là, mais les disciples le voient, et ils le voient en train de partir. Et vous savez que Jésus était capable de lire le cœur de ses disciples, de tout le monde. Il est capable de lire notre cœur aussi. Et mais qu'est-ce qu'il dit? Ce que mon Père a promis, j'enverrai sur vous. C'est comme une promesse pour dire, on va se revoir. On va se revoir. C'est comme une bonne nuit, quoi. Je sais que vous ne voulez pas que je quitte. Je sais que pour vous, vous n'êtes pas prêt à vivre sans moi. Mais je dois m'en aller. Et quand je pense à la fermeture de la porte de la chambre, après avoir dit « bonne nuit », je pense à cette même chose. C'est comme une nuit que nous passons maintenant en attendant le retour de notre Sauveur, notre Roi des Rois, Jésus-Christ. Nous sommes dans une période d'attente. Nous sommes obligés de patienter. Nous ne pouvons pas vraiment hâter le jour dans un sens, parce que c'est lui, c'est le Père qui décide. Quand Jésus va revenir, c'est déjà écrit dans les Écritures. Mais ce qui se passe ici, c'est un peu plus de ce que je vous ai mentionné. Si vous lisez au début des Actes, les Actes chapitre 1, un peu plus loin. Et on ne va pas tout de suite y reporter, mais quand nous lisons aussi dans l'Évangile de Jean aussi, et nous lisons aussi que Jésus va envoyer un consolateur, le pouvoir de l'Esprit. Nous pensons aussi à cette promesse qu'il vient de dire directement à ses disciples. Puis Actes chapitre 1 et le verset 3. Actes chapitre 1 et le verset 3. Donc nous reprenons l'histoire maintenant. Et nous lisons ici au verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, comme je vous ai dit, une formation poussée pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu. Une préparation pour quoi? Ce n'est pas relire toute l'histoire d'Israël du passé pour juste se concentrer sur « il faut que vous sachiez exactement les étapes ». Non, il parlait beaucoup de l'avenir, de ce qu'il allait se passer, les choses pour lesquelles il se préparait. Et nous sommes toujours en phase de préparation maintenant, frères et sœurs. Nous sommes, l'Église est un outil pour Dieu, il se sert de l'Église pour nous préparer pour l'avenir. Donc, il continue maintenant Je m'arrête aussi maintenant au verset 4. « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. » Et ça revient exactement à ce que nous avons lu dans l'évangile de Luc 24. Puis au verset 5. Au verset 5, nous voyons, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Nous sommes à peu près, nous sommes à peu près dans cette période d'attente maintenant, entre aujourd'hui et la Pentecôte, n'est-ce pas? Nous sommes dans cette période entre les deux, entre la Pâque et entre la Pentecôte. Nous sommes déjà dans cette période. Donc, c'est un peu à propos que nous discutons ces passages maintenant, parce que c'est en ce moment. Si vous imaginez le temps de Jésus-Christ, nous sommes entre ces deux fêtes, nous sommes dans la même période de l'année où se passait ce chose que nous lisons ici. Ici, on peut voir clairement, c'est une continuation, comme je vous ai mentionné, une continuation sur les derniers versets de l'évangile de Luc. Mais regardons maintenant la question que les disciples... On a commencé ce sermon aujourd'hui en parlant d'une petite question. Une petite question qui vient de quand la lumière est éteinte et quand on va se dire bonne nuit. Mais il y a une question qui est ici aux actes, qui est intéressante. Une dernière question, s'il te plaît, Seigneur, avant que tu t'en ailles. Actes chapitre 1, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, et moi je ressens ici cet attachement très fort. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Encore une petite question. Après 40 jours d'entraînement, de formation, si vous voulez, de discussion libre, d'instruction, ils ont encore des questions. Est-ce que nous sommes pareils? Est-ce que nous avons encore des choses que nous souhaiterions à connaître ou comprendre? Est-ce que nous nous demandons, ou est-ce que en prière, nous demandons au Père de nous révéler quand même davantage de sa vérité ou en profondeur sa vérité aussi? Je pense que cette attitude devrait nous inspirer dans notre étude biblique, dans notre voie chrétienne, dans notre poursuite de la voie de la vérité. Parce que eux, ils n'étaient pas satisfaits de passer 40 jours. Ils avaient encore des questions. Et nous devrons être pareils pendant toute la vie. Nous devrions continuer à avoir plus de questions, plus de choses qui nous intéressent. La parole de Dieu, quand on le relit chaque année, quand on passe peut-être 6 mois ou 8 mois ou 1 an entier à relire la Bible, il y a toujours de nouvelles questions qui se posent, n'est-ce pas? Il y a toujours de nouvelles choses qui nous intéressent. Peut-être une chose a changé dans notre vie. Nous sommes dans un état de maladie spirituelle, de maladie physique, par exemple, une épreuve, de problèmes de santé. Ou peut-être nous venons d'avoir un enfant et nous voyons de tous les versets qui parlent de père et enfant. On les voit complètement différents de ce que nous voyions auparavant. Et avec chaque phase de la vie, avec chaque moment de la vie, nous changeons. La vérité ne change pas, mais nous, notre perspective, ça change. Donc, nous pouvons revenir au même verset quelques années plus tard et ça peut nous révéler d'autres vérités, d'autres choses que nous n'aurions pas compris auparavant. Même si la vérité était déjà là, avec l'inspiration de Dieu et avec notre changement, il y a la possibilité d'approfondir avec chaque année notre compréhension, notre préparation pour ce que nous attendons. Le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ. Quand on prie « Que ton royaume vienne », c'est ce même attachement que nous avons que là, avec les disciples. C'est ce qu'ils voulaient aussi. Est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est une belle question. Il leur répondit au verset 7, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Encore une fois, ça revient à ce que je vous ai dit, c'est le Père qui décide. Nous ne savons pas exactement. Nous avons des indications de ce qui doit se passer avant le retour de Jésus-Christ. Nous sommes avertis, mais c'est lui qui décide. Il n'y a rien qu'on peut faire pour changer sa décision. Et puis, très importante, encore une fois, c'est comme le verre de lait, c'est comme le doudou, c'est comme quelque chose pour nous donner un confort dans la nuit que nous allons passer sans notre parent. C'est ici au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Non pas seulement il nous offre son esprit, il nous donne quelque chose à faire. Est-ce que vous étiez déjà jeune et vos parents, peut-être ils vous ont laissé chez vous, sans vous demander de faire quoi qu'il se soit, quoi que ce soit. Ils vous ont dit, Daniel, tu as quand même 14 ans maintenant, tu peux rester à la maison cet après-midi, passe ton temps, fais ce que tu veux, et puis ils s'en vont. Est-ce que vous avez vraiment aimé ça? Peut-être les premières quelques minutes, mais pour moi, au moins, après une heure, moi, je me dis, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Et le cerveau, ça tourne, l'esprit tourne, parce que, normalement, on a le père là, on a la mère qui est là, c'est le cadre de notre vie, il y a un sens de progrès, notre schedule, tout est planifié, et puis quand il s'en va, et il y a du temps libre jusqu'à cet extrême-là, on se sent, je suis pas trop content de ne rien faire jusqu'à leur retour. Par contre, ce que Jésus-Christ nous dit, c'est non pas seulement il va nous donner la puissance de son esprit, mais en même temps une tâche ou plusieurs tâches à faire qui sont adéquates ou qui sont faites pour chacun. Et même quand Paul prêche des dons de l'esprit, ça veut dire que nous ne faisons pas tous la même chose non plus. Chacun a ses propres capacités, a ses propres dons spirituels. Et il nous donne des choses à faire. Il nous donne son œuvre à accomplir au sein de l'Église et dans notre vie personnelle, avec notre propre famille. Et quand vous investissez dans votre famille, frères et sœurs, je ne vais pas vous cacher que vous investissez aussi dans l'Église de Dieu. À chaque fois que vous mettez du temps avec la famille, avec la femme, avec les enfants, avec les parents, avec n'importe qui, vous investissez aussi dans l'Église. Vous savez pourquoi? C'est parce que nous sommes une lumière pour le monde. Et l'Église est là pour servir de témoin, juste comme il vient de dire. Ce n'est pas eux seuls qui avaient cette responsabilité, cette occasion, cette possibilité, mais c'est nous tous qui participons au même corps, au même esprit, aux mêmes œuvres aussi. Mais le moment est venu, au verset 9, où il fallait qu'il s'en aille. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc, on peut imaginer ça facilement. On peut imaginer que quand eux, ils regardaient, ils n'avaient pas envie de rater la dernière seconde où ils pouvaient le voir. Donc, vous imaginez que s'ils passaient par les nuées, qu'ils continuaient à regarder. Est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il est encore est-ce qu'il va sortir? C'est comme quand un avion va passer dans une nuée ou à travers la nuée, vous allez peut-être chercher que ça reparaisse après. Mais ici, c'est le même attachement. C'est l'attachement que nous ressentons ici entre Jésus-Christ et ses disciples. Et nous avons l'opportunité d'avoir cet attachement. Et sans avoir l'Esprit de Dieu en nous aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils n'avaient pas reçu l'Esprit de Dieu. Ils n'avaient pas reçu en eux. Il a dit que l'Esprit était avec eux, mais que bientôt l'Esprit serait en dans eux. Donc, je ne parle pas seulement aux membres baptisés maintenant, je parle à tout le monde parce qu'il est important d'être conscient du fait que même quand on n'est pas baptisé et on est au sein de l'Église, Dieu travaille avec nous et il développe cet attachement avec nous. Avant qu'on s'engage, c'est lui qui nous tend la main. C'est lui qui nous donne la possibilité d'accepter ce qu'il prépare pour nous. Quand on accepte, quand on s'engage au baptême, nous avons quand même la possibilité de s'engager à vie et de faire, d'avoir ce don en nous et en même temps d'être relié à la tâche, à l'œuvre de l'Église de Dieu qui nous dépasse. C'est pas un homme qui est l'Église de Dieu. C'est pas une femme qui est l'Église de Dieu. C'est un ensemble. C'est tous les membres spirituels et tous ceux qui sont associés aussi, je dirais. Parce que notre exemple est là. Et donc, si l'Esprit est en nous, ça veut dire que quand on rend service à quelqu'un, c'est que l'Esprit, c'est Dieu qui travaille par son Esprit avec celui que nous allons aider. Pour ça, nous ne devons pas hésiter quand nous voyons le besoin. Mais c'est pas quelqu'un dans l'Église. Moi, je vais garder mes énergies juste pour mes frères et sœurs. Non, nous sommes appelés à développer un amour pour Dieu et notre prochain. C'est pas limité à l'Église, même si on dit d'autant plus à l'Église de Dieu, à la maison de l'Éternel. C'est sûr qu'on devrait aussi sentir cet attachement à l'Église d'autant plus, mais c'est pas limité à l'Église. Donc, pour revenir un petit peu à ce que je vous disais, dans la même manière que mes enfants, les disciples voulaient que Jésus reste avec eux, qu'il s'installe, que le roi des rois s'installe tout de suite. Ils voulaient poser cette question de plus avant le départ aux cieux. Ils pensaient déjà, ils étaient programmés, ils étaient instruits à propos du royaume à venir. Nous aussi, nous sommes programmés, nous sommes instruits à propos du royaume à venir. Nous avons nos yeux fixés sur le royaume, Matthieu 6, 33, et nous poursuivons ce royaume et sa justice. C'est notre objectif primaire dans la vie. Et il nous donne de l'aide. Il ne nous laisse pas seuls à poursuivre ce chemin. On doit s'appuyer sur cette force qui est en nous. Mais les disciples ne voulaient pas attendre longtemps le retour de Jésus-Christ. Jésus, leur maître et seigneur, a répondu à cette question avec des paroles rassurantes. Et ça revient à ce qu'il dit à propos de l'Esprit aussi, que c'est pour les rassurer, pour qu'ils ne soient pas découragés, pour qu'ils ne soient pas démunis, pour qu'ils soient encouragés. Il les guidait dans ce moment intime, avec cet attachement. Il voulait les consoler et il voulait les guider envers un grand événement dont il parlait dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Comme je vous ai mentionné, l'envoi de la puissance d'en haut, le Saint-Esprit, qui est mentionné comme une puissance consolateur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait aux Actes, chapitre 1, de nouveau, verset 10. Actes 1 et verset 10. Il y avait quelque chose un peu drôle. Des fois, nous avons de l'humour dans la Bible. Et les gens se moquaient de temps en temps des personnes de la Galilée. Ils se moquaient de temps en temps comme c'était des gens très simples. Et donc, on a un petit peu d'humeur ici. Parce que au verset 10 à 11, c'est un peu drôle ce qui se passe. Et en même temps, on pense à ce que je vous ai mentionné. Ils vont regarder aux cieux, ils vont chercher dans les nuages à voir est-ce qu'on peut le voir de nouveau? Et puis, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et c'est ici un peu l'humeur, ici, l'humour. Verset 11, et dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc c'est intéressant, c'est pas suffisant qu'il laisse juste des promesses, mais il a envoyé ces deux hommes vêtus de blanc. C'est quoi? Ben, c'est deux anges qui apparaissaient comme des hommes vêtus de blanc. Et eux, ils ont aussi parlé aux disciples avec des mots rassurants pour leur dire, même s'il s'en va, il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ce sont encore une fois des mots d'encouragement. Quand on pense à tout ce qui va se passer avant le retour de Jésus-Christ, nous avons besoin de passages comme celui-ci pour nous donner de l'encouragement. Nous avons déjà vécu une pandémie depuis 2 ans, et il y aura d'autres choses à vivre aussi. Je pense à Matthieu 24, qui nous oriente, qui nous fait un avertissement par rapport à ce qui doit se passer avant le retour de Jésus-Christ. Matthieu 24, juste une petite partie, je vais citer. Versets 29 à 30, je trouve ça très lié avec ce que nous venons de lire. Matthieu 24, versets 29 à 30. Aussitôt après ces jours, dit Jésus-Christ, de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Ici, nous avons un petit résumé de ce que nous apprenons de du livre d'Apocalypse, n'est-ce pas? Tout ce qui se passe avant le retour en Apocalypse 19 de Jésus-Christ. Verset 31, « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. » Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Et donc, nous avons ici, au verset 29 et 30, excusez-moi, j'ai sauté le verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, tous les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Donc la promesse a été déjà faite et puis reconfirmée par les anges dans Actes chapitre 1 que nous venons de lire. Mais c'était quoi la réponse des disciples en ce moment-là? Quand ils ont vu que Jésus-Christ s'en allait, quand ils ont entendu ces paroles un peu consolateur, ces paroles encourageantes. Est-ce que nous nous souvenons de la fin de l'évangile de Luc, chapitre 24? Jésus leur avait dit de rester dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. C'est quand même une instruction encore très puissante. Ils avaient besoin d'être imbuvés de l'Esprit de Dieu, de recevoir l'Esprit de Dieu en eux, afin d'accomplir les tâches que Jésus-Christ leur a prescrites. Donc on voit presque les mêmes paroles au début des Actes que nous voyons à la fin de l'Évangile de Luc. Ils n'avaient pas prévu que ses disciples restent à Jérusalem jusqu'à son retour. C'était pas ça. Il n'a pas dit, OK, restez sur place, faites rien du tout, et moi je reviendrai. C'est pas ce qu'il a dit. Il leur a donné une tâche à accomplir. C'est pour ça qu'il, pendant son ministère de 3 ans et demi, il préparait l'Église. Il préparait, et puis pendant cette période de 40 jours aussi, il préparait le fondement de l'Église de Dieu pour accomplir quelque chose. C'est comme un parallèle avec ancien Israël aussi. Ancien Israël était censé être une nation sainte pour révéler la gloire de Dieu à toutes les nations autour. C'était l'objectif, même s'ils ont échoué, c'était l'objectif. Ils avaient une sorte de tâche à accomplir, ils avaient un rôle à jouer, et puis aussi, nous aussi, nous avons quelque chose à accomplir aussi. Et puis, nous avons cette question, que font les disciples après avoir reçu cette instruction? Est-ce qu'ils se sont dit, oui, mais c'est quand même difficile de sortir de Jérusalem, de prêcher l'Évangile dans tout le monde? Est-ce qu'on serait mieux de rester ici quand même? Moi, j'ai pas vraiment, j'ai pas les compétences. Moi, j'ai pas la capacité. Est-ce qu'ils étaient comme ça? Non, ils étaient pas comme ça. Est-ce qu'ils voulaient juste attendre le retour de Jésus-Christ sans rien faire? Non, je pense pas. Est-ce qu'ils ont été découragés par ce gros changement? Et est-ce qu'ils se sont dispersés? Se séparant, en allant droite à gauche, pour dire, moi, ok, j'ai tout appris, moi je vais aller m'installer chez moi, et puis j'attends son retour chez moi. Non, c'était important qu'il a demandé à ses disciples d'aller quelque part ensemble, et d'attendre ensemble à Jérusalem. Pas son retour, mais quelque chose de différent. Le Consolateur, la puissance d'en haut, c'est ça qu'ils voulaient qu'ils attendent. Et ils ont répondu. Des fois, malheureusement, nous avons du mal à patienter, n'est-ce pas? Nous, les hommes, les femmes, l'homme a du mal à patienter. Je pense, il y a à peu près 20 ans, 15 ans, on voyait souvent à l'écran de l'ordinateur, on voyait l'image du sablier apparaître pour nous faire attendre. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Le petit sablier pour dire « attends, traitement en cours », quelque chose comme ça. C'était beaucoup plus souvent que moi je voyais ça à cette époque-là que maintenant. Maintenant, les ordinateurs que nous utilisons chez nous n'ont que rarement le besoin de nous faire attendre. Mais dans le passé, ça faisait partie de... Si on allait se servir d'un ordinateur, il fallait qu'on soit patient. Il fallait qu'on mette le bouton comme ça. OK, je vais aller prendre mon café. Quelque chose comme ça. C'est ça que les programmeurs de gros machines industrielles faisaient. Ils avaient des piles de cartes comme ça. Et ils chargeaient les cartes des instructions de la machine. Ils mettaient le bouton là, parce qu'ils avaient passé des heures à préparer ces cartes pour donner des instructions au mainframe. Et puis, ils sont allés, ils ont pris un café, ils ont attendu que la machine produise le petit résultat. Quelque chose de beaucoup moins compliqué que ce que j'ai sur mon téléphone cellulaire. Et ils avaient besoin d'attendre. Maintenant, nous avons accès à vidéo HD, nous avons accès à des choses incroyables. Et nous attendons beaucoup moins pour ces choses. Mais nos habitudes, est-ce qu'ils ont changé? Est-ce que nous sommes plus patients maintenant qu'auparavant? D'après pas mal de sondages, nous sommes moins patients maintenant que nous étions auparavant. Mais dans ce cas-là, les disciples étaient instruits d'aller attendre et ils ont attendu, pas seulement attendu, mais ils ont prié l'aide de Dieu en attendant. Ils n'ont pas fait rien du tout en train d'attendre. Si vous lisez Actes chapitre 1 et le verset 14, tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Ils étaient d'un commun accord. Les disciples croyaient en Dieu. Ils croyaient que Dieu garde ses promesses et que Dieu est toujours bon. Que s'il a demandé qu'ils attendent, que ça, c'était une bonne chose. Ils avaient confiance. Ils allaient déjà se préparer pour la tâche importante, même s'ils n'avaient pas compris exactement comment le jour de la Pentecôte allait se passer. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce que nous lisons. Il ne nous abandonne pas. Ce sont des paroles de confort. Comme nous avons lu au verset 49 de Luc 24, le Père avait promis l'envoi de cette puissance d'en haut. Il a dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Les disciples étaient, d'après Actes chapitre 1, et comme nous avons lu le verset 14, d'un commun accord. Ils se sont montrés solidaires et courageux aussi. Ils n'étaient pas effrayés. Ils n'avaient pas une hésitation extrême. Ils cherchaient à faire la volonté de leur maître, Jésus-Christ, la volonté de Dieu. Ils ne cherchaient pas d'après leur propre volonté et le raisonnement humain. Ils attendaient, ils patientaient ensemble d'après les instructions du Seigneur. C'était un acte d'obéissance, un acte de respect pour sa parole et pour ses instructions. L'apôtre Jean nous rappelle du lien entre l'obéissance et la puissance du Saint-Esprit. Si nous allons nous préparer pour recevoir le Saint-Esprit dans notre vie comme don, nous allons nous préparer en devenant humbles, en devenant obéissants. Mais obéissants à quoi? 1 Jean 3, verset 22 nous dit, il y a un lien entre ce que nous allons demander et ce que nous allons faire. 1 Jean 3, 22, un passage très encourageant justement. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Maintenant, nous avons l'apôtre Jean qui a vécu plus longtemps que les autres apôtres, et c'est peut-être l'une des épîtres les dernières de la Bible en termes de période, le temps, le moment que ça a été écrit. Et nous avons quelqu'un qui souligne l'importance de garder les commandements. Il n'y a pas eu une confusion chez l'apôtre Jean. Les commandements faisaient partie de ce que Dieu nous demande de faire. Puis verset 24, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Ça revient vraiment à tout ce que nous avons appris à propos de l'Esprit de Dieu, à propos du lien entre Jésus et Dieu le Père. Donc, je suis un, il a dit, avec mon Père. Il est en moi, je suis en lui. Et puis, il a dit que nous soyons en vous, dans ce sens-là. Il voulait reproduire ce même attachement avec le Père qu'il avait avec son Père. Et donc, l'Esprit nous permet cet accès direct au Père. L'Esprit nous permet un attachement. Même plus que ça, nous devenons héritiers de ses promesses. Nous devenons, comme c'est mentionné dans Hébreux 2:10, de conduire beaucoup de fils à la gloire. Nous allons recevoir la gloire un jour à cause de son appel, à cause du fait que lui, il nous a tendu la main. Et nous avons répondu, et nous avons gardé ses commandements, à ceux qui gardent mes commandements. C'est intéressant. Combien d'entre nous faisons du bricolage de temps en temps? On voit un problème devant nous et à l'attaque. On essaye de le résoudre tout de suite avec peu de réflexion. Des fois, on n'a pas les bons outils. Des fois, il nous manque des vis ou des clous ou des bolts, des choses comme ça. Mais on va quand même essayer de réparer l'affaire quand même parce qu'il faut que ça fonctionne. Moi, malheureusement, j'ai fait une expérience là-dessus hier. Il y avait dans notre jardin, dans notre cour, des parterres surélevés. Et les enfants avaient joué sur le bord de ces parterres surélevés et ça a cassé. Donc, l'une des planches est tombée par terre et puis la terre commençait à sortir un petit peu de cet endroit-là. Moi, je me suis dit, je peux pas le laisser comme ça, mais j'ai pas les bons outils, j'ai pas une scie à couper pour le moment, j'ai pas certains outils qui seraient très, très utiles pour réparer ça, mais je me suis dit, je peux pas le laisser quand même. Donc, j'ai foncé là-dessus, j'ai pris ce que j'avais et j'ai piraté les vis de ce qui était tout pourri, le bois tout pourri. J'ai pris ma rallonge, j'ai pris petites choses comme ça. J'avais juste ce qu'il fallait pour essayer de remettre les choses en place. Si vous regardez maintenant le jardin chez moi, les parterres surélevés, vous voyez deux gros poteaux qui ne sont pas coupés et vous voyez que la planche a été remise. Donc, il me manquait la scie et il me manquait de bons vis. Donc, c'est à l'apparence, ça semble OK. Mais moi, je sais que c'est un bricolage qui a besoin d'être refait. Parce que je voulais juste le faire sans aller au magasin, sans passer beaucoup de temps là-dessus. Et des fois, on fait ça. On essaye de faire avec ce qui est à notre disponibilité. Mais ce n'est pas ce que Jésus avait demandé à ses disciples. Il n'a pas dit, allez, débrouillez-vous. Non. D'abord, il a passé du temps à l'instruction et après, la promesse de l'Esprit aussi, avec lequel il travaille directement avec nous. C'est incroyable, l'outil, le don qu'il nous a offert. Et on devrait s'appuyer dessus tous les jours, dans nos décisions, dans notre comportement, dans nos réflexions. Et on devrait être guidé par l'Esprit aussi. Donc, depuis Adam et Ève, l'homme a toujours le désir de faire pour lui-même, d'après sa façon de faire. L'homme réfléchit souvent à ce qui est bon pour lui. Dieu nous a donné le libre arbitre, c'est vrai, la possibilité de choisir entre le bien et le mal, mais ça ne veut pas dire qu'il nous a laissés seuls. Il y avait quand même deux arbres dans le jardin d'Éden, et Adam et Ève ont pu faire de mauvais choix. Ils ont eu la possibilité, la liberté, si vous voulez, de faire un mauvais choix. Il y a bien d'autres exemples aussi où Dieu a permis aux gens avec lesquels il travaillait déjà, il les a permis de faire de mauvais choix. Pour de diverses raisons aussi. Donc, avant de partir aux cieux, Jésus a promis à ses disciples une puissance, une aide, un consolateur, une force avec laquelle l'homme serait guidé par Dieu de l'intérieur, dans son cœur. Que son cœur soit saint, dans un sens, soit purifié par la puissance de son esprit. Sommes-nous plutôt comme ceux qui préfèrent faire ce qu'ils veulent pour eux-mêmes, en bricolage, ou sommes-nous comme les disciples qui ont suivi l'instruction de Jésus pour attendre la puissance d'en haut? Si vraiment il nous appelle, si vraiment nous ne voulons pas répandre, c'est notre choix de dire non. Nous avons le choix. Personne ici va vous tordre le bras pour vous faire accepter certaines vérités. Vous avez le choix. Nous avons tous le choix. Mais, par contre, ce qui est intéressant, c'est que nous ne choisissons pas les conséquences de nos choix. Si on fait un choix qui apporte des conséquences, on ne peut pas dire, ah bah, oui, je fais mon choix, mais je ne veux pas les conséquences maintenant. Okay? On doit accepter les conséquences si on s'engage dans nos propres choix. Par contre, les bonnes conséquences vont avec de bons choix, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que nous sommes encouragés. Nous savons que si nous faisons de bons choix en gardant ses commandements, en étant obéissant à lui, qu'il y a de bonnes choses associées avec. Même le cinquième commandement avait déjà attaché des promesses avec honorer ton père et ta mère. Et puis, il y a une vie paisible, une vie longue dans la terre, dans le lieu que Dieu nous donne. Il y a des conséquences positives. Et donc, si nous nous occupons de tout ce qui est positif, et si nous suivons les commandements de Dieu, l'instruction de Dieu, nous avons de bonnes conséquences. Nous avons, même si la vie existe, même si nous traversons des périodes de difficultés dans la vie, nous avons quand même des promesses qui vont au-delà de tout ce qui est physique. Mais malheureusement, nous savons, nous connaissons Proverbe 16, 25, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Donc, ce qui paraît droit, c'est son propre choix, mais malheureusement, c'est la conséquence qui est des fois inattendue. Dans un sens, Dieu a créé une première fois une partie de la création de l'homme. Il a créé la partie physique de l'homme, tout en premier, mais la deuxième partie qui va faire en sorte que l'homme soit achevé comme œuvre de Dieu, c'est la partie spirituelle, n'est-ce pas? Il nous a créé bien physique, mais avec ce que Jésus vient de promettre à ses disciples, il est capable d'achever sa création. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il veut de nous? Finalement, ce qu'il voudrait, c'est se reproduire en nous, n'est-ce pas? C'est de créer des fils qui lui ressemblent, de créer des enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. D'amener beaucoup de fils à la gloire. C'est son plan, c'est son objectif. Et il nous donne les ressources pour l'accomplir en nous. Pour qu'il soit capable de travailler en nous tout à notre fort intérieur. Donc on peut se demander pourquoi Dieu veut-il nous donner son Saint-Esprit? Ah, c'est pour ça. C'est parce que il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils élevés à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. C'est Hébreux 2, 10. Nous en faisons partie, frères et sœurs. Voici l'avenir qu'il nous offre en tant que fils de Dieu. Jean 1, versets 12 à 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, par son esprit. Nous sommes capables d'être nés de Dieu, des esprits spirituels. Entre-temps, il ne nous délaisse pas, il ne nous abandonne pas. Entre-temps, même s'il fallait qu'il ferme la porte pour le moment, il a des choses à faire pour préparer son retour. Et nous, nous avons des tâches à accomplir au sein de l'Église dès aujourd'hui. Nous nous préparons pour un avenir merveilleux, mais notre job, notre rôle a déjà commencé. Nous pouvons nous réjouir de faire partie de cet organisme spirituel qui va continuer jusqu'au retour de Jésus-Christ.